Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise. Vous êtes prêt? Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos minds se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre En vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant. Quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Je vous propose d'ouvrir cette nouvelle saison avec l'un de mes romans préférés, Kafka sur le rivage, du japonais Haruki Murakami. Paru au Japon en 2002, c'est le 10e opus de Murakami. De son vivant, un être humain peut devenir un fantôme. Cette phrase hante ce roman d'apprentissage qui s'inscrit dans la littérature universelle. Haruki Murakami nous conte ici les pérégrinations de Kafka Tamura, un adolescent de 15 ans, sur les routes du Japon en quête de sa mère et les errances de Nakata, vieil homme simple d'esprit à la recherche de chats égarés. Quand leurs chemins vont se croiser, peut-être qu'alors chacun découvrira sa propre vérité. Dans ce récit initiatique, les chats confèrent, les poissons tombent du ciel, les prostituées vénèrent Hegel et les rêves prennent vie. Adapté de multiples fois au théâtre, le roman de Murakami est un incontournable à lire et à relire à tout âge. Murakami efface ici littéralement le temps et la raison dans cette fable merveilleuse sur le pouvoir de l'esprit. De son vivant, un être humain peut devenir un fantôme. Cette belle phrase entre Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. 7 novembre 1944, quelque part au Japon. Un groupe d'écoliers sous la houlette de leur institutrice part cueillir des champignons. Ils aperçoivent un ovni très haut dans le ciel et tombent immédiatement inanimés. Alors que l'enseignante revient avec du secours, les enfants se réveillent sans souvenir de l'événement. L'un d'entre eux, Nakata, élève brillant, reste dans le coma. Longtemps après, il en émerge après avoir perdu l'essentiel de ses facultés intellectuelles, mais ayant acquis un don curieux, celui de converser avec les chats. Aussi, bien des années plus tard, après avoir cessé d'exercer un métier de menuisier, il utilise ce talent pour ramener les animaux égarés par les gens du quartier. Jusqu'au jour où il tombe sur un égorgeur. Et pour l'argent, ça s'est arrangé? Demande le garçon nommé Corbeau. Il parle de sa façon habituelle, un peu lente, comme quelqu'un qui sort à peine d'un profond sommeil et ne peut remuer les lèvres tant elles sont engourdies. Mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, il est parfaitement lucide, comme toujours. Je hoche la tête. Tu as combien à peu près? Je lui réponds après avoir à nouveau passé les chiffres en revue dans ma tête. Environ 400 000 en liquide, sans compter une petite somme que je pourrais retirer avec ma carte bancaire. Ça ne suffira peut-être pas, mais c'est un bon début. C'est pas mal, dit le garçon nommé Corbeau. C'est un bon début. Je hoche la tête. J'imagine que ce ne sont pas les étrennes du Père Noël, poursuit-il. Non. Le garçon nommé Corbeau regarde autour de lui, les lèvres tordues par un sourire narquois. Cet argent sort du tiroir d'une personne qui vit dans les parages, c'est exact? Je ne réponds pas. Il sait parfaitement d'où vient cet argent. Il n'a pas lieu de poser des questions détournées. Il le fait juste pour masticoter. Allez, c'est bon, dit le garçon nommé Corbeau. Tu as besoin de cet argent, absolument besoin, alors tu te le procures, tu l'empruntes en douce, ou tu le voles, peu importe. De toute façon, c'est l'argent de ton père. Avec ça, tu pourras t'en sortir au début. Mais qu'as-tu l'intention de faire quand tu auras épuisé ces 400 000 yens? L'argent ne pousse pas dans un porte-monnaie comme les champignons dans la forêt. Il faudra que tu manges, que tu trouves un endroit où dormir. À un moment ou à un autre, tes ressources finiront par s'épuiser. J'y réfléchirai le moment venu. Le garçon nommé Corbeau répète ce que j'ai dit, comme s'il soupesait mes paroles dans sa paume. Je hoche la tête. Tu trouveras du travail, par exemple?
Peut-être.
Le garçon nommé Corbeau secoue la tête. Dis donc, il va falloir que tu comprennes dans quelle société on vit. Quel genre de travail crois-tu qu'un garçon de 15 ans loin de chez lui peut trouver? Tu n'as même pas achevé ta scolarité. Qui va employer quelqu'un comme toi?
Je rougis un peu. Il m'en faut peu pour rougir.
Allez, ça va, dit le garçon nommé Corbeau. Inutile d'envisager le pire avant même de se lancer. Tu es décidé. Il n'y a plus qu'à passer à la phase de réalisation. C'est ta vie, après tout. Au fond, tu fais les choses à ton idée. Exactement. C'est ma vie, après tout. Seulement, tu ne t'en sortiras pas si tu ne t'endurcis pas un peu. Je ferai des efforts, dis-je. Il faut reconnaître que tu t'es pas mal endurci ces dernières années, dit le garçon nommé Corbeau. Je hoche la tête. Mais tout de même, tu n'as que 15 ans. Ta vie commence à peine. Il y a un tas de choses que tu ignores encore en ce monde. Donc tu n'as même pas idée,
Nous sommes assis, côte à côte, comme d'habitude, dans le vieux canapé en cuir du bureau de mon père. Le garçon nommé Corbeau aime bien cet endroit. Il en apprécie les moindres détails. En ce moment, il joue avec un presse-papier en verre en forme d'abeille. Naturellement, quand mon père est là, il n'approche pas de cette pièce. « Quoi qu'il en soit, dis-je, il faut que je parte d'ici, c'est certain. »« Sans doute. » Il repose le presse-papier sur la table, croise les mains derrière la nuque. « Mais ça ne résoudra pas du tout, poursuit-il. Je vais peut-être encore jouer les rabat-joie, mais ce n'est pas en partant le plus loin possible que tu parviendras à t'échapper d'ici. On ne peut pas en être sûr. N'espère pas que la distance soit une solution. » Je réfléchis à nouveau au problème de la distance. Le garçon nommé Corbeau pousse un soupir, se presse les paupières du bout des doigts. Ensuite, il ferme les yeux et il me parle du fond des ténèbres. « Joue un autre jeu, dit-il. »« D'accord. » Je ferme les yeux, moi aussi, et respire profondément, calmement. « Tu es prêt ? » demande-t-il. « Imagine une tempête, une terrible, terrible tempête de sable. Oublie tout le reste. » J'obéis. J'imagine cette terrible, terrible tempête de sable. J'oublie tout le reste. J'oublie même qui je suis. Je fais le vide dans mon esprit. La réalité se met à flotter devant moi. Cette réalité qui nous entoure tous les deux, le garçon nommé Corbeau et moi, assis côte à côte sur le vieux canapé en cuir du bureau paternel. Parfois, commence le garçon nommé Corbeau, le destin ressemble à une tempête de sable qui se déplace sans cesse. Parfois, le destin ressemble à une tempête de sable qui se déplace sans cesse. Tu modifies ton allure pour lui échapper, mais la tempête modifie aussi la sienne. Tu changes à nouveau le rythme de ta marche et la tempête change son rythme elle aussi. C'est sans fin. Cela se répète un nombre incalculable de fois, comme une danse macabre avec le dieu de la mort, juste avant l'aube. Pourquoi ? Parce que cette tempête n'est pas un phénomène venu d'ailleurs, sans aucun lien avec toi. Elle est toi-même et rien d'autre. Elle vient de l'intérieur de toi. Alors, la seule chose que tu puisses faire, c'est pénétrer délibérément dedans, fermer les yeux et te boucher les oreilles, afin d'empêcher le sable d'y entrer et la traverser pas à pas. Au cœur de cette tempête, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, pas de repère dans l'espace. Par moments, même le temps n'existe plus. Il n'y a que du sable blanc et fin, comme des eaux broyées qui tourbillonnent haut dans le ciel. Voilà la tempête de sable que tu dois imaginer. J'imagine une tempête de sable telle qu'il la décrit. Une trombe de sable blanc s'élève droit vers le ciel, pareil à un épais cordage. Je ferme les yeux et me bouche les oreilles des deux mains, afin que ce sable fin ne pénètre pas à l'intérieur de mon corps. La colonne se rapproche, se dirige droit sur moi. Je sens la pression du vent sur ma peau. La tempête s'apprête à m'avaler. Alors le garçon nommé Corbeau pose une main sur mon épaule et la tempête disparaît. Mais je garde les yeux fermés. À partir de maintenant, tu dois devenir le garçon de 15 ans le plus endurci du monde, quoi qu'il arrive. Parce que c'est le seul moyen que tu as pour survivre en ce monde. Et pour cela, il faut que tu comprennes par toi-même ce que ça signifie de devenir un vrai dur, compris ? Je reste silencieux. J'ai envie de sombrer lentement dans le sommeil, comme ça, avec la main du garçon sur mon épaule. Je perçois un léger battement d'ailes près de mes oreilles. « Tu vas devenir le garçon de 15 ans le plus courageux au monde, » murmure le garçon nommé Corbeau, tandis que j'essaie de m'endormir. C'est comme s'il tatouait ces mots sur mon cœur avec une encre d'un bleu profond. C'est un fait. Tu vas réellement devoir traverser cette violente tempête. Cette tempête métaphysique et symbolique. Mais si symbolique, si métaphysique qu'elle soit, ne te méprends pas. Elle tranchera dans ta chair comme 1000 lames de rasoir affûtées. Des gens saigneront. Et toi aussi tu saigneras. Un sang chaud et rouge coulera. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des autres. Une fois la tempête passée, tu te demanderas comment tu as fait pour la traverser, comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr, en fait, qu'elle soit vraiment achevée. Mais sois certain d'une chose. Une fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras jamais plus le même. Tel est le sens de cette tempête. Le jour de mes 15 ans, je ferai une fugue. Je voyagerai jusqu'à une ville inconnue et lointaine et trouverai refuge dans une petite bibliothèque. Il me faudra une semaine pour en arriver là avec toutes les péripéties que cela implique, car je n'indique là que les points principaux. Le jour de mes 15 ans, je ferai une fugue, voyagerai jusqu'à une ville inconnue et lointaine, trouverai refuge dans une petite bibliothèque. Cette formulation fait un peu penser à cette conte de fées, mais croyez-moi, ça n'a rien d'un conte de fées, dans tous les sens du terme. Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Tiffaine, à la technique, de m'avoir accompagnée. La semaine prochaine, l'incroyable récit d'Emmanuel Carrère, L'Adversaire. Prenez soin de vous et laissez-vous envahir par des lectures magiques et envoûtantes sur Esprit Occitanie. Et n'oubliez pas, le livre papier, c'est la liberté.